Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à faire entendre votre voix. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Aube, c'est aussi une revue et un blog avec plus de 400 entrées sur tous les sujets. Toutes nos émissions sont disponibles en balado et chaque capsule peut être téléchargée via laplumedefeu.com. Aube, épisode 36. À tort et à travers, nos croyances influencent nos vies, notre perception du monde qui nous entoure et justifie parfois l'injustifiable. Pour ce 36e épisode, Aube s'est penché sur les croyances, qu'elles soient philosophiques ou religieuses, ésotériques ou scientifiques. Au sommaire, l'effet placebo, la zététique, le pouvoir de la pensée, les croisades, l'Arche de Noé, une entrevue avec Rachel Tremblay d'une communauté Baha'i, les sceptiques et, pourquoi pas, un extrait de l'Apocalypse selon Saint Jean. Aube te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives, de prendre action simplement par une prise de conscience. Le mot-clé? Foi. À la sortie du métro un matin, il y a un type qui me refile un track avec écrit dessus. Repentez-vous, la fin est proche. Je le regarde. Bon. À la télé, un pauvre type se fait exploser parce qu'un autre pauvre type a fait un dessin de son prophète. Puis il est pas content pantoute pantoute. Bon. Je vais former la télé, je pense. L'autre dimanche, toc toc, un type tout souriant pioche ma porte pour me vendre un livre avec la vérité. La seule vérité, la vraie. Je suis chanceux, moi, matin, depuis le temps que je l'attendais. Je referme la porte. Je suis pas du genre crédule, sauter sa première idée venue. C'est drôle, mais j'ai vraiment pas besoin de croire en quelque chose. Je suis plutôt du genre à expérimenter par moi-même, à me documenter, à discuter. Si un concept semble avoir du sens, je m'y arrête. Mais c'est quand même quelque chose, l'autre type qui vient de trucider 123 autres types sous prétexte qu'il croit que 72 vierges l'attendent de l'autre bord. Et si une coquille s'était glissée dans son texte, tu sais, de traduction en traduction, 72 vierges pourrait aussi vouloir dire 72 verges. Bon, je me dis qu'ils sont pas sortis du bois. Ben bon pour eux. Au suivant, comme dirait Brel. Bon, je suis encore en train de m'égarer avec mon monologue, moi là. J'entends tellement de trucs délirants de nos jours. Les gens errent. Ça me décourage. Un pas en avant, deux en arrière. Que ce soit la pensée magique ou l'effet placebo, les écrits bibliques, lus au sens propre et surtout figuré, la spiritualité du nouvel âge, les pseudo-sciences, est-ce que je peux me raccrocher sur une vérité? Une seule? J'ai comme l'impression de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais bon. J'ai beau garder l'esprit ouvert, je regarde mes contemporains sans foi ni loi, qui se raccrochent sur le premier gadget venu. La science a parlé. Oui, mais non. C'est pas ça de la science. Bon. Ok, je vais garder l'esprit ouvert. Qui sait? En attendant, ça fait bien rire ma parenté en leur faisant croire que je fais maintenant partie de l'église du spaghetti volant. Un pastafari. Moi.
Thank you. Et Dieu leur répondit.
Vous pensez que c'est facile de choisir avec vos grands gueules? Vous pensez que c'est facile d'être un Dieu, un homme, un Saint-Esprit aussi? Il y a des fois je mettrai le feu dans tout ça comme j'ai fait à Sodome, ou je ferai le coup de la marée comme j'ai fait à Noé. Et s'il faut que je vous le dise dans votre vocabulaire, vous me faites...
Et puis, vous faites la peine à Saint-Pierre, et vous faites pleurer vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs,
et vous me faites la peine et tout.
Croisade de Pierre l'Ermite.
Le pape Urbain II lança en 1096 la première croisade pour la libération de Jérusalem. Y participèrent des pèlerins déterminés, mais dénués de toute expérience militaire. À leur tête, Gautier sans avoir et Pierre l'Ermite. Les croisés avancèrent vers l'est sans même savoir quel pays ils traversaient. Comme ils n'avaient pas de vivres, ils pillèrent tout sur leur passage et provoquèrent ainsi bien plus de dégâts en Occident qu'en Orient. Ces représentants de la vraie foi se transformèrent rapidement en une cohorte de vagabonds, loqueteux, sauvages et dangereux. Le roi de Hongrie, pourtant chrétien lui aussi, hérité par les dommages causés par ses va-nu-pieds, les attaqua pour protéger ses paysans de leur agression. Les rares survivants qui parvinrent à rejoindre la côte turque étaient précédés d'une telle réputation de barbares, mi-hommes, mi-bêtes, qu'anissaient les autochtones les achevèrent sans la moindre hésitation.
Un texte tiré de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. BernardWerber.com. Texte et narration de Marie-Claude Journeau.
Le pouvoir supérieur du mental. Lorsqu'on parle d'effet placebo, on se réfère souvent à une sorte de pouvoir mental particulier qui nous sauverait des maladies et accélérerait notre guérison. On nous parle de pouvoir du cerveau sur le physique. En gros, l'effet placebo est très méconnu du grand public qui l'associe souvent à un pouvoir magique qui, une fois découvert, nous sauverait du mal-être et des maladies. Une sorte d'épiphanie sanitaire et mystérieuse, quoi. L'effet placebo rejoint en ce sens une série de mythes médicaux, autant que l'usage des 10% de notre cerveau ou le fait que les ongles et les cheveux poussent encore après la mort. En réalité, l'effet placebo a fait l'objet d'une quantité impressionnante d'enquêtes scientifiques depuis 60 ans. La plupart du temps réalisées dans le cadre d'études visant la commercialisation d'un médicament, l'effet placebo en tant que tel a été le sujet d'une quantité quand même moins impressionnante d'études. Et oui, les études sur l'usage d'un médicament sont souvent le fait d'industries pharmaceutiques qui ont les fonds nécessaires pour le faire. Elles s'intéressent à l'efficacité d'un médicament, très peu aux autres paramètres qui pourraient favoriser la guérison. Ce sont les premières publications de Bischer en 1955 et de Haas 1959 qui révèlent la présence d'un effet placebo qui compterait pour 30% des guérisons, toutes pathologies confondues. Cependant, à cette époque, on attribue un effet de causalité au placebo alors qu'il s'agissait d'une corrélation. Traduction, on attribuait au placebo une vertu de guérison via la croyance en l'efficacité d'un médicament alors que d'autres paramètres auraient dû être cités comme intervenant dans la guérison. Les auteurs d'un article écrit en 1997 par Kinley et Keane, qui fut l'un des premiers à désacraliser l'effet placebo, écrivent, je cite, les fausses impressions d'effet placebo peuvent être produites de différentes manières. Ici de nombreux exemples parmi lesquels l'amélioration spontanée, la fluctuation des symptômes, la régression à la moyenne, la prise d'un traitement supplémentaire, un biais dans l'échelle d'évaluation et des réponses de politesse et bien d'autres encore. Et il constate, ces facteurs sont encore fréquents dans la littérature moderne sur le placebo. Ces auteurs ont fait l'analyse de près de 800 enquêtes pour en tirer des conclusions dont voici une synthèse simplifiée. Il faut comprendre que l'effet d'un médicament est composé d'un effet propre, donc ce qu'il apporte par rapport à un médicament vide, et d'un effet placebo, ce qui ne dépend pas des substances chimiques du médicament. Mais pour comprendre l'effet placebo, il faut se demander comment on peut le définir et ce qu'il recouvre. Déjà, il faut partir d'un contexte de maladie peu grave ou bénigne. L'effet placebo est beaucoup moins significatif dans un contexte de maladie infectieuse ou cancéreuse. Pour évaluer l'effet d'un médicament placebo, des études ont comparé trois choses: l'absence de prise en charge thérapeutique, la prise d'un placebo et la prise d'un médicament avec substance active. Dans ces études, on voit une amélioration des symptômes, même sans traitement médicamenteux. Et oui, avec le temps qui passe, notre système immunitaire fait sa job et nous défend contre les maladies. C'est l'effet de l'amélioration spontanée dont l'article parlait tout à l'heure. De plus, en général, on va voir notre médecin lorsque les symptômes sont les plus forts. Ils ne peuvent donc que diminuer après. Pour les personnes qui ne sont pas allées voir un médecin, on constate en effet une même diminution des symptômes, même sans prise en charge thérapeutique. Autre cause de guérison sans prise de traitement ou avec un placebo, lorsque les effets des médicaments déjà pris avant se font enfin sentir. On pense que c'est le placebo alors qu'il s'agit d'effets retardés. Ces trois éléments comptent pour la moitié de l'efficacité d'un placebo. Mais l'autre 50% de l'efficacité résiderait-il dans notre pouvoir mental ? Eh bien non, en fait, l'autre moitié serait due à la prise en charge thérapeutique. Quand on est suivi par un médecin, on change nos habitudes, on fait plus attention à notre santé, on mange mieux, bref, tout un tas de petits gestes du quotidien qui changent la donne et peuvent avoir un effet sur notre système immunitaire. Il faut rajouter à cela un certain conditionnement qui existe depuis l'enfance. En 2003, un article de Predrag Petrovic dans la revue Science démontre que lorsqu'on ingère un antidouleur, notre cerveau fait ce qu'il a appris à faire en pareille situation. Il augmente son taux de dopamine et d'endorphine pour calmer la douleur. Par contre, cet effet est valable pour les douleurs faibles. Pour les grosses douleurs, la prise d'un placebo aboutit à un ressenti de douleur plus forte, étant donné le décalage entre les attentes de la personne et la réalité. Cet effet de conditionnement est présent chez l'homme adulte, mais aussi chez le nourrisson et même les animaux. Des études vétérinaires mettent en relief que lorsque le maître est détendu, l'animal le sent et est rassuré et donc guérit plus vite. Une autre composante de ce fameux effet placebo est le côté relaxant et rassurant d'un médecin qui nous apaise. De nombreuses infections courantes s'accompagnent de symptômes peu dangereux, bien que désagréables. L'intensité de ces symptômes sont modulées par le niveau de stress. Cette importance de l'apaisement est particulièrement significative pour les maladies chroniques de peau, l'asthme, les problèmes digestifs et intestinaux, les douleurs articulaires et même certaines allergies. Alors au-delà de tout ça, est-ce qu'il resterait quand même une composante magique? La fameuse composante de notre pouvoir mental d'autosuggestion hyper puissante? Eh bien peut-être, mais en quantité trop infime pour être prise en considération. L'effet placebo serait largement dû à la prise en charge thérapeutique avec un médecin convaincu et rassurant, à un changement d'attitude et d'habitude, à l'effet de notre super système de défense naturelle et à la diminution du stress. Comme on peut le voir, ce millefeuille de l'effet placebo rend difficile de savoir si c'est vraiment ce médicament qui fait effet. La plupart du temps, dans le traitement des virus tels que la grippe, rappelons qu'il ne sert à rien de prendre un médicament, sauf s'il y a risque de complications éventuelles. Enfin, concernant les pathologies lourdes, il faut éviter de croire que le pouvoir du mental pourra vous guérir, tout seul, par miracle et pouvoir suprême. La complexité du fonctionnement d'une maladie vous encouragera plutôt à combattre sur tous les fronts, plutôt que de mettre tous ses œufs dans un même panier assez ésotérique. Les médecins considèrent de plus en plus que tous les éléments évoqués dans l'effet placebo ont leur importance. La tendance actuelle veut que le traitement des maladies lourdes est approché de manière plus complexe et plus complète qu'avant, faisant une place de choix non seulement à la médecine conventionnelle, mais aussi à la nutrition, à la réduction du stress, à l'activité sportive, à la méditation et aux médecines naturelles. Preuve de cette reconnaissance, le CHUM offre des ateliers de méditation à son personnel, la faculté de médecine en propose à ses étudiants, et les services d'oncologie et de soins palliatifs de l'hôpital Sainte-Marie actuellement proposent massothérapie, ateliers de yoga ou de méditation à ceux qui le souhaitent.
Texte et narration d'Aurélie Superchico. zététique est définie comme l'art du doute par Henri Brock. Présentée comme l'étude rationnelle des phénomènes présentés comme paranormaux, des pseudosciences et des thérapies étranges. La zététique est destinée aux théories scientifiquement réfutables, c'est-à-dire respectant le critère de discrimination de Popper. De fait, contrairement aux autres mouvements sceptiques, elle ne pose pas la question des religions et des croyances non réfutables. Son objectif est la mise à l'épreuve d'énoncés pourvus de sens et de nature scientifique, c'est-à-dire réfutables selon Popper, dont les explications ne semblent pouvoir se rattacher à aucune théorie communément acceptée. La zététique se réclame aussi du scepticisme scientifique et plus généralement de la démarche de doute cartésien qu'elle décrit comme nécessaire en science comme en philosophie. Elle se veut, pour reprendre le mot du biologiste Jean Rostand, une hygiène préventive du jugement.
La pensée humaine peut tout. Dans les années 50, un porte-conteneur anglais transportant des bouteilles de vin de Madère en provenance du Portugal vient débarquer sa cargaison dans un port écossais. Un marin s'introduit dans la chambre froide pour vérifier que tout a bien été livré. Ignorant sa présence, un autre marin referme la porte de l'extérieur. Le prisonnier frappe de toutes ses forces contre les cloisons, mais personne ne l'entend et le navire repart pour le Portugal. L'homme découvre suffisamment de nourriture, mais il sait qu'il ne pourra survivre longtemps dans ce lieu frigorifique. Il trouve pourtant l'énergie de saisir un morceau de métal et de graver sur les parois, heure après heure, jour après jour, le récit de son calvaire. Avec une précision scientifique, il raconte son agonie. Comment le froid l'engourdit, gelant son nez, ses doigts et ses orteils. Il décrit comment la morsure de l'air se fait brûlure intolérable. Lorsque le bateau jette l'ancre à Lisbonne, le capitaine qui ouvre le conteneur découvre le marin mort. On lit son histoire gravée sur les murs. Le plus stupéfiant n'est pas là. Le capitaine relève la température à l'intérieur du conteneur. Le thermomètre indique 19 degrés Celsius. Puisque le lieu ne contenait plus de marchandises, le système de réfrigération n'avait pas été activé durant le trajet de retour. L'homme était mort uniquement parce qu'il croyait avoir froid. Il avait été victime de sa seule imagination.
Narration de Martin Junior Pelletier. Rappel éclair de l'histoire de Noé. Un déluge s'en vient. Tout sera noyé. Noé est averti par Dieu qui lui demande de construire un grand bateau pour protéger des centaines de couples d'animaux. Il s'occupe d'eux pendant la crise et quand les eaux se sont retirées, tous les animaux sont libérés pour permettre à la vie de reprendre sur la terre. Un arc-en-ciel apparaît pour marquer l'alliance entre Dieu et les humains. Ce récit est symbolique. Il ne prétend pas que Dieu soit la cause de catastrophes climatiques. Par contre, les récits bibliques cherchent à inspirer les actions. Entre autres, ce récit nous rappelle que ce même Dieu est lié à notre désir de protéger cette vie si précieuse qui nous entoure. Malheureusement, nous ne semblons pas tous percevoir cet appel. La présente vague d'extinction d'espèces n'est pas causée par les volcans ou les astéroïdes. Elle est causée par une espèce indigène à la planète. C'est l'humain qui rase les habitats naturels, qui pollue, qui gaspille et qui cause un réchauffement du climat. Depuis l'arrivée de l'humain, il y a 1 million d'années, il n'y a pas eu d'extinction massive. L'extinction actuelle dépasse la raison. Une espèce s'éteint à toutes les 10 minutes, ce qui équivaut à 50 000 espèces par année. Le plus effrayant, c'est notre ignorance et notre insouciance. Pourquoi protéger la biodiversité, comme Noé? Ils vinrent à Noé, couple par couple, de toute créature animée de vie. Incroyable! Cette histoire fabuleuse aurait pu mettre en scène des centaines d'animaux, mais alors certains maillons de la chaîne alimentaire seraient manquants. Déjà, dans ce texte écrit au 6e siècle avant Jésus-Christ, on retrouve l'idée que les vivants ont besoin des autres vivants. L'histoire rappelle que ce n'est pas à l'humain de décider qui vivra et qui mourra, mais que la conservation de la nature est innée chez toute personne ouvrant son cœur. Chaque espèce est importante dans son écosystème, car il existe un équilibre à respecter. Par exemple, si on pêche trop de saumon, la tortue manquera de nourriture et disparaîtra du paysage. Un autre scénario serait l'augmentation de la température de l'eau qui empêcherait la reproduction de plusieurs petits poissons et mènera à la perte de l'aigle. S'il manque un étage dans la chaîne alimentaire, c'est tout l'écosystème qui en souffre. Voilà l'importance de protéger une grande diversité d'espèces. Plus il y a d'espèces, meilleure sera l'adaptation de cet habitat. Toute espèce vivante est reliée à d'autres, un peu comme une grande toile d'araignée invisible. Et l'humain fait partie de ce grand réseau, malgré la modernité. Il suffit d'une sécheresse pour enclencher une famine et une perte de bétail. Quand El Niño est arrivé au Pérou, l'eau est devenue trop chaude et les poissons ont fui les côtes et tous ont eu faim. L'espèce humaine est comme un maillon dans un grand tricot. Ça restera solide aussi longtemps qu'il y aura assez de cordes, car nous sommes tous interdépendants. Cependant, cette dépendance nous pousse aussi à ouvrir notre cœur à cette grande famille terrestre, nos frères et sœurs de l'eau, de la terre et de l'air. La génétique a déjà démontré que plus de 98% de nos gènes sont identiques à ceux du chimpanzé et 90% avec ceux de la souris. Puis, l'humain, investi du don de l'intelligence, n'est pas responsable de gérer des ressources, mais d'être gardien de cette création. Alors, la prochaine fois qu'il y aura un dérèglement du climat et que les formes de vie seront menacées, penserez-vous à la nécessité de conserver la nature, comme Noé? Un texte de Normand Lévesque tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration et adaptation de Philippe Laramé.
C'est toujours un plaisir de partir à l'aventure dans un endroit inconnu. Et toujours particulièrement lorsqu'il advient que notre liberté s'établit conjointement au confinement, au cœur d'une maison dont l'étendue apparaît inconcevable. Je marchais donc, jouissant de ma relative insouciance retrouvée, dévalant les escaliers de béton ou de bois, étudiant ça et là des œuvres d'art que je n'aurais jamais soupçonné voir ici. Du fétiche tribal jusqu'aux icônes orthodoxes. Et tout à coup, en explorant le cœur de l'antre de mon ravisseur, j'en découvrais progressivement l'âme. Celui qui m'était apparu en un premier temps comme un rustre gauchiste, au communisme revanchard, portait haut les valeurs de l'esthétique, de la foi, et surtout semblait-il de la pensée. Comment un être dont le manque absolu de sens moral, cause de mon enlèvement, avait-il pu cohabiter ne serait-ce qu'un instant au cœur de ce capharnaüm religieux ? Je ne vis pas s'approcher discrètement à pas feutrés un bonze, dont la tenture orangée aurait alors pu mettre mes sens en éveil bien plus tôt.
Cela vous surprend de voir tout ceci ?
Oui. Les couloirs regorgent de reliques et d'autres statues en odeur de sainteté. Comment se fait-il que mon hôte supporte la vue de ce manque ardent de sympathie pour la cause humaine ?
C'est tout le contraire, plutôt.
Allons, allons. La religion n'a jamais fait bon usage de la cause humaine. Ou alors pour l'en départir de sa liberté, soit de vivre, soit de penser.
Vous semblez rester aux us et coutumes coûteux de l'époque ignoble où la foi n'était que la face improbable d'une humanité naissante, monsieur. Les lumières sont apparues alors, et avec leur faisceau puissant, ont balayé d'un trait salvateur le brouillard entre culte et foi.
Maître Garibaldi semble avoir départi de leur faveur divine ces divers objets, n'est-ce pas ?
Au contraire, il leur a donné leur valeur véritable en les acceptant en son cœur. Jamais plus ces ouvrages de l'homme ne seront portés dans l'espoir de Dieu, mais plutôt dans l'espoir des hommes en eux-mêmes, vers leur accomplissement.
Tout ça me paraît fabuleux. Ainsi, mon ravisseur, mon geôlier, croit en une chose, s'éloigne de son image d'imperturbable défenseur matérialiste pour espérer lui aussi...
Cela, je ne pourrais pas vous le dire, je ne le croise guère, mais il souffle ça et là à qui veut l'entendre des espoirs secrets, passe des nuits à se recueillir devant ses œuvres, étudiant leur beauté. Il cherche à percer quelque chose, voyez-vous. Mais quoi ?
Telle est la question. Je repartais, suite à notre brève entrevue avec ce bon Zlokas, en direction des cuisines. L'odeur sourde du bœuf cuit et de quelques autres délices éveillait ma faim. Je n'avais été nourri que du strict nécessaire en m'offrant l'accès illimité à sa demeure. Maître Garibaldi récompensait ma coopération. Du moins, pour l'instant.
Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc.
On pourrait dire ça.
Je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Crois-tu en la destinée, Néo ?
Non. Et pourquoi? Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie.
Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle?
De la matrice.
Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité.
Quelle vérité?
Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit.
Marguerite de Valois, acceptes-tu pour... Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme.
Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser notre vision du monde. Plus tôt en début d'émission, vous avez entendu la croisade de Pierre l'Ermite, l'effet placebo, la définition de la zététique, le pouvoir de la pensée, l'Arche de Noé, l'apostrophe de M. Tubercilde de Jean-Baptiste Gardarin, et la musique de Jean-Pierre Ferland avec God is an American. À venir dans la deuxième partie, la croisade de Godefroy de Bouillon, une entrevue avec Rachel Tremblay d'une communauté baï, Quand la pratique est magique, un texte de Sarah-Maria Leblanc, interprété par Elisabeth Daigle, le mouvement sceptique, et quelques extraits de l'Apocalypse selon Saint-Jean. Sans oublier la musique de Plume la Traverse avec Ainsi soit-il. Si vous avez manqué la première partie, vous pouvez télécharger nos émissions en balado via laplumedefeu.com. Croisade de Godefroy de Bouillon.
Godefroy de Bouillon prit la tête de la croisade des seigneurs pour la libération de Jérusalem et du Saint-Sépulcre. Cette fois, 4500 chevaliers aguerris encadraient la centaine de milliers de pèlerins. Pour la plupart, c'étaient de jeunes cadets de la noblesse privés de tout fief en raison du droit d'aînesse. Sous couvert de religion, ces nobles déshérités espéraient conquérir des châteaux étrangers et posséder enfin des terres, ce qu'ils firent. Chaque fois qu'ils s'emparaient d'un château, les chevaliers s'y installaient, abandonnant la croisade. Souvent, ils se battirent entre eux pour la possession des terres d'une nouvelle ville vaincue. Le prince Bohémond de Tarente, par exemple, décida de faire main basse sur Antioche pour son compte personnel. Paradoxe. Pour mieux parvenir à leur fin, on vit des nobles occidentaux faire alliance avec des émirs orientaux et combattre d'autres croisés alliés à d'autres émirs. Arriva le moment où on ne sut plus qui combattait avec qui et contre qui, ni pourquoi. Beaucoup avaient même oublié le but originel de la croisade.
Narration de Marie-Claude Journeau.
Vous saviez qu'il y avait des monolithes au Québec? Des alignements de dolmens et de menhirs semblables à ceux découverts en Bretagne et en Irlande. Au sein même des jolies terres de Sutton, sur un magnifique terrain entouré de montagnes, il y a des menhirs se tenant fièrement debout dans la brume. Des portes de dolmens, des inukshuk gardant une forêt de fougères et même des totems amérindiens immenses. Instinctivement, toutes les pierres semblent avoir été placées à des endroits précis, décidés. Mais quel être a fait ces constructions traversant les époques et comment s'y prend-il? En arrivant sur les lieux, Ed est en train de finir de sculpter un pi géant et nous accueille avec un large sourire spontané. Je m'attends à ce qu'il me parle d'énergie tellurique, de rituels sacrés. En fait, la vision de cet être est tout ce qu'il y a de plus terre à terre. Selon lui, les ancêtres plaçaient les pierres à différents endroits pour faciliter les observations naturelles. Par exemple, il a placé ces pierres sur la terre que nous avons visitée pour que la lumière du soleil arrive à tel endroit au solstice. De cette façon, en regardant où le soleil était rendu sur les pierres, les ancêtres pouvaient savoir quand les pommes allaient pousser, quelle heure il était exactement, s'il était temps de commencer à ramasser du bois pour l'hiver, etc. Et certaines pierres servaient à indiquer le gibier, d'autres à créer des ombres pour faire croire aux tribus ennemies qu'il y avait des gens. Donc, une utilité de survie et aussi comme une manière de communiquer avec la Terre, d'être relié à elle de façon concrète. Et comment il les construit, lui, ces monuments sacrés? Avec un bulldozer. Il prend les pierres qui appartiennent à la Terre dans laquelle il se trouve. Parfois, les pierres ne peuvent pas sortir, il sent que ça force trop. Alors, il les laisse là où elles sont. C'est une manœuvre assez délicate. Il faut s'assurer que les pierres vont rester debout en se plaçant devant elles pour les équilibrer. Ed a un grand respect pour les pierres. Et les légendes reliées au mégalithes anciens? Sa réponse est touchante. Il me parle de son garçon de 4 ans pour qui il a construit une roue de médecine sur un cercle de bois avec du poil de son chien qui est mort. Il lui a raconté une légende sur le monde des esprits avec une explication on ne peut plus satisfaisante. Les légendes aussi ont des fonctions utilitaires. Disons que c'est un mélange des deux, l'utile et le spirituel. Et de toute façon, si le magique n'était que des manifestations physiques? Quand chaque instant est sacré, la pratique est magique. Quand chaque acte spirituel a un sens, le magique est pratique. En prenant une marche avec lui, on comprend qu'il sent l'énergie d'un lieu, qu'il utilise les lignes d'énergie tellurique pour aligner ses pierres. Il nous montre des roues de médecine avec les différentes phases de la lune et avec la procession du soleil. Dernière question à cet humble magicien. Y a-t-il des endroits publics où on peut visiter vos constructions? Pas présentement, malheureusement, mais il souhaite qu'éventuellement ça soit possible. Son désir étant que ça soit à un endroit où les gens qui passent respectent cette manifestation d'art sacré. Nous ressortons honorés de tous ces enseignements. C'est donc un « à la prochaine, Ed! »
Un texte de Sarah Maria Leblanc, tiré de Aube, le recueil de solutions. Adaptation et narration d'Elisabeth Daigle.
Rachel a 37 ans. Elle a grandi dans une famille Baha'i en Gaspésie. Ses parents, un père québécois et une mère venue de Colombie-Britannique, ont entendu parler de cette religion née en Iran au milieu du 19e siècle par des amis. Elle habite aujourd'hui à Montréal avec son mari et ses deux enfants. Elle est une membre active de cette communauté religieuse et j'ai voulu discuter avec elle de son propre cheminement spirituel.
Mes parents ont choisi cette communauté-là. Surtout parce qu'il y avait une grande communauté, il y avait beaucoup d'enfants. Fait que j'ai grandi avec ma marraine qui donnait des classes d'enfants, finalement. Quand je suis devenue, j'avançais dans les âges, dans l'adolescence, tout le monde est parti, il y avait du monde qui s'en allait, fait que la communauté a vraiment rapetissé. C'est un petit peu plus difficile de garder la tête « the head above the water », comme on dit, là, tu sais, avec rester inspiré, puis...
Ce qui m'intéresse de savoir, c'est un peu comment t'as grandi avec certains enseignements ou une vie de famille, une certaine spiritualité. J'imagine qu'à l'école, il n'y avait pas énormément de Baha'i.
Non, j'étais toujours, pour moi, la fille avec la religion bizarre, mais je pense que je me voyais plus comme ça, parce que c'est pas quelque chose que... Je sais pas, c'était pas... je le criais pas sur les toits, tu sais.
C'est difficile de se l'accaparer, en fait. Ça devient un peu le truc de tes parents, le truc familial.
Mais en même temps, c'est drôle parce que même si j'ai eu un moment où j'ai essayé de rébeller, si tu veux, comment dire... Tu sais, des fois, je me disais, ah, mais what if, tu sais... Y a rien, on meurt, y a rien, tout ça, c'est n'importe quoi. Le monde spirituel, c'est pas quelque chose qui existe vraiment. On aurait dit que c'était comme vraiment sur la surface, parce que dans le profond de moi-même, je pouvais pas me mentir. C'est comme si je ressentais trop la vérité de ma propre spiritualité.
On peut pas dire que tu te sois extraite de la communauté pour y revenir. Y a pas eu un rejet, en fait.
Pas de rejet comme tel, c'est plus moi, j'ai juste été dans le ruisseau de le mainstream, là, de la vie normale, si tu veux, le commun des mortels. Mais toujours, j'ai eu la foi. Puis c'est comme si, surtout quand les choses étaient plus difficiles dans ma vie, je savais toujours, j'écrivais toujours de la poésie, des paroles de chansons, des hip-hop lyrics. Puis toujours, je savais, à la fin, tu sais, le dénouement, ça pointait toujours à que je savais c'était quoi la solution à mes problèmes. Toujours. Puis je savais que c'était juste a matter of time. C'est juste un bon moment donné que oui, j'allais prendre tout ça, toute ma vie back en main, puis être active dans ma croissance spirituelle puis dans la communauté bahaïenne.
Est-ce que tu peux identifier l'événement qui t'a fait vraiment faire
revenir?
Ce switch?
Je me rappelle du moment précis, ouais. Je travaillais au Second Cup sur Milton, dans le McGill Ghetto. Puis, je sais pas, il y avait comme vraiment un vide, là. Tu sais, puis j'ai eu un moment, là, genre, waouh, tu sais, la vie, ça sert à quoi? Tu sais, vraiment, c'est sans but. Puis à ce moment-là, j'étais en train de laver la vaisselle, tu sais, comme un peu des moments où ce que on a rien dans la tête, hein, puis c'est un peu zen, puis c'est des fois ces moments-là, puis t'as une ouverture à des idées créatives, des choses qui peuvent rentrer dans ces moments-là. Là. Mais c'est ça, je lavais la vaisselle, puis j'avais eu ces émotions-là, puis là c'était comme juste le vide, puis j'ai eu ce que j'appelle my sweet breeze. Spirituellement, c'était comme de la douceur. C'était la réponse, c'était comme, mais tu sais c'est quoi le but de la vie, tu sais qu'est-ce que t'as à faire. C'était juste comme un sentiment plein de certitude, puis de direction. Les gens aussi que j'ai rencontrés, que des fois ils s'égarent ou ils partent un peu, vivent autre chose, si tu veux, quand ils reviennent vraiment de leur propre choix, tu sais. Puis ça, je trouve que ça, c'est pas nécessairement mauvais, dans le sens que on est très encouragé de pas juste adopter la religion de nos parents juste parce que, et de vraiment que ça vienne de soi-même. Puis quand tu reviens, souvent c'est ça, t'es ferme à ce moment-là, parce que tu sais, c'est toi. Ouais.
Du coup, comment t'as l'impression de transmettre ça avec tes enfants?
Transmettre. Ben, je pense que vraiment, j'ai eu des amis dans le passé qui m'ont dit, ah, mais tu sais, la foi bahaï, c'est comme une philosophie, ou comme si c'était un onguent un peu que dans ma vie. Puis je dis, mais non, mais c'est qui je suis. Fait que transmettre ça, mais ça devient, c'est qui tu es, c'est comment tu vis ta vie, c'est les mots que tu choisis, c'est tes actions. Fait que, puis ensuite, ben c'est ça, c'est toujours d'être active, puis to embrace them in there, tu sais, les accueillir dans le cheminement avec moi depuis qu'ils sont tout petits, prier avec eux, parler de la spiritualité, parler de tout. C'est une chose que j'adore de faire l'école à la maison aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on a un sujet de conversation, on peut vraiment penser puis discuter ensemble de quoi ça a l'air, comme pourquoi on apprend quelque chose ou comment ça s'applique dans notre vie. Toujours avec l'idée dans la tête qu'on est là pour servir.
Propos recueillis par Justine Restello.
je me lève le matin, pis que ça va pas trop bien, que c'est pareil d'un journaux, pis à la météo, je m'en fais pas parce que moi, ben j'ai sué de mon côté. Je descends dans l'ascenseur, il reste bloqué deux heures, belle panne d'électricité, je suis pris entre deux planchers, même quand y a pas lumière, y a encore Jésus qui m'éclaire. Jésus c'est mon copain, ma branche de sapin, mon sexe c'est mon plaisir, ma pilule pour dormir, c'est l'œil qui me surveille, mon lampion, mon soleil, ma commande d'épicerie, ma divine maladie. Je sors en sifflotant, je rentre dans un restaurant, le grec veut pas me servir, il dit qu'il va me sortir, je suis bien au-dessus de ça, j'ai Jésus dans mon estomac. Je rentre chez l'épicier, j'ai dit que j'ai pas mangé, le floc qui pique une crise, je mange un paquet de bêtises, ah que Jésus et Christ, il me fait jeûner pour que je maigrisse. Jésus c'est mon copain, ma branche de sapin, mon cercle c'est mon plaisir, ma pilule pour dormir, c'est l'œil qui me surveille, mon lampion, mon soleil, ma commande d'épicerie, ma divine maladie. Woo! Sur le trottoir, je m'assis sur un bon verre. V'là une grande fille qui m'embrasse. Elle m'offre 150 piastres arrière la tentation. Je pense à Jésus, puis je dis non. Je m'en vais voir mon médecin parce que j'ai mal au rein. Il me dit faut t'opérer. T'as un cancer, Charlie. Faut que je retourne à l'asile. Salut tout le monde!
Bon, après avoir fait un si joli tour de la question, je sais toujours pas qui ou quoi croire. Je pense que je vais rester l'esprit ouvert, comme un parachute, et tenter de me remplir de ce qui a réellement de sens à mes yeux et dans mon cœur, pour éclairer mon esprit et faire de moi un être meilleur. Scepticisme-scientifique.com traite de zététique, un mot que je connais maintenant et que je peux dorénavant placer dans une conversation entre joueurs de hockey. Athéiste-expérience.com aborde souvent le thème de la croyance et de bien d'autres choses encore, que ce soit les origines de la vie, de philosophie, de loi, etc. Les sceptiques du Québec sur sceptique.qc.ca proposent souvent des articles sur les croyances. Le monde merveilleux du scepticisme, un site québécois très intéressant que vous pouvez consulter sur lmmds.ca. scienceétonnante.wordpress.com ne traite pas nécessairement de croyances, mais plutôt de vulgarisation scientifique, ce qui ne peut pas nécessairement faire de tort parmi toutes les pseudo-sciences et prophètes de malheur qui nous entourent.
Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont pris part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et de la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit durant des siècles. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient debout devant le trône. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et même la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. » Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les menteurs, les impudiques, les idolâtres, les enchanteurs et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. »
C'était des extraits de l'Apocalypse de Saint Jean. Narration et adaptation, Danny Schneider.
C'est moi qui t'ai conçu et qui t'ai porté dans mon ventre. J'ai enfanté toute vie. Depuis ma bienveillance maternelle, je t'ai offert mon principe masculin. Osiris, le grain divin, seigneur du règne végétal. Je t'ai donné le pouvoir perpétuel de le semer et de le récolter. Notre fils soleil, Horus, te donne tous les jours lumière et chaleur. J'ai supporté tes premiers pas, consolé tes chagrins, guéri tes maux. C'est par moi que tu peux te vêtir et t'abriter. Je t'ai regardé grandir, vieillir. J'ai tenu ta main jusqu'à la fin. Tu es ma plus grande création. Je t'ai tout donné, inconditionnellement. Je suis ta mère, la mère de tout. Je suis Isis. Si je viens te voir, c'est parce que c'est à ton tour aujourd'hui de gouverner. C'est à ton tour de prendre soin. Je remets cette responsabilité entre tes mains, afin que tu comprennes enfin. Sauras-tu t'en acquitter ? En constatant tous les dégâts causés par tes guerres, tes abus et ta pollution, je ne le pense guère. Mais que s'est-il passé, humanité? Quand m'as-tu oublié? Pourquoi tu as tout ravagé? Comment peux-tu ne pas voir ce que tu crées? Tu fais violence à mon nom. Tu fais pencher le balancier. Tu profères la souffrance et la pauvreté. Tu déshonores la femme en dérobant sa dignité. De toutes tes ignominies, je suis consternée. Il est temps de devenir grande. Qu'en penses-tu, humanité? Mais j'espère que ta crise tira sa fin, car je suis très fatiguée. Parfois même, je suis en grande colère. J'ai terriblement honte de toi et je veux te faire disparaître. Ça me fait mal au ventre de voir s'effacer cet amour qui nous unit. Je me sens séparée de toi. Et j'aimerais trouver la façon de t'atteindre, d'entrer en dialogue avec toi, de faire la paix. Je suis désolée si je n'ai pas toujours su t'accompagner comme il le fallait. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je te remercie. Je t'aime. L'amour d'une mère peut dissoudre les erreurs et panser toutes les blessures du passé. Mais j'ai encore confiance en toi, en ta capacité à te ressaisir et à retrouver ton chemin. Allez, humanité! Je t'implore de t'éveiller, car les aberrations auxquelles tu te prêtes en ce moment ne peuvent plus durer. Déploie tes sens. Respire mes fragrances et relie-toi à mon essence. Tu sauras faire la différence. Laisse-toi bercer par ma matrice. Que je te console et que je te cajole. Et que je te donne la force de changer. D'accord, humanité? J'ai infusé en toi cette semence de lumière, cet amour de la terre, de tes sœurs et frères, ce glaive de vérité, ce sens de l'équité. À toi, maintenant, de les déployer sous les volutes du ciel azuré. Isis.
C'est ce qui conclut l'épisode 36 de Aube. Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com. Si vous vous sentez inspiré par Aube, nous vous invitons à participer à notre émission. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Si vous avez deux minutes pour nous offrir vos commentaires, il nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter. Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Philippe Laramé, de Marie-Claude Journeau, de Justine Rastello, d'Aurélie Superchico, de Jean-Baptiste Gardarin, Annie Schneider, Elisabeth Daigle, Patricienne Patchon-Blanchet et Martin Junior Pelletier. Un grand merci à Paulo Leduc pour les références sur les sceptiques et à Maurice Bolduc pour les propositions musicales. À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé.
Vous pensez que c'est facile de dormir avec vos grandes gueules? Vous pensez que c'est facile d'être ici, ailleurs et partout à la fois? Il y a des fois, je recommencerai tout ça sans Ève et sans Adam. Que des chiens, que des chats, que des champs et des bois. Et s'il faut que je vous le redise, dans votre vocabulaire, vous me faites.
Et puis, vous faites la peine à Saint-Pierre. Et vous faites pleurer vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs.
Et vous me faites la peine et tout.
ils comprendront jamais. Allez, Saint-Pierre, coupe.